Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode de Cinexplore. Pour ce nouveau rendez-vous qui aura lieu le dernier mercredi du mois, je vous propose de passer de l'autre côté de l'écran avec moi et de m'accompagner dans mes rencontres avec les professionnels qui font l'industrie du cinéma, de près ou de loin. Ils peuvent être directeurs de cinémathèque, passionnés, travailler au financement des films, festivaliers ou festivalières, scénaristes ou même youtubeurs cinéma, ils sont quoi qu'il en soit des acteurs de cette industrie et ont forcément des choses à raconter. Et ça tombe bien, parce que moi, j'ai envie de les écouter, toutes ces choses. Pour ce premier épisode, nous partons à la rencontre de Franck Loiret, directeur délégué de la Cinémathèque de Toulouse. Quand je l'ai contacté, Franck a très aimablement accepté de me recevoir et de répondre à mes questions. C'est quoi une cinémathèque? Comment ça marche? Comment fait-on vivre un lieu de culture à vocation nationale quand il n'est pas à Paris? Comment transmet-on la mémoire du cinéma aux générations à venir? Que nous raconte la crise du cinéma. Dans cet épisode, on va parler aussi de Raymond Borde, critique cinéma, essayiste et figure incontournable du cinéma à Toulouse. Il a cofondé la Cinémathèque et en a été le conservateur. Initialement animateur du Ciné-Club de Toulouse, il découvre en 1952 une copie du film Ring d'Alfred Hitchcock qui lancera l'idée de conserver le patrimoine cinématographique et donc la Cinémathèque de Toulouse, qui ne sera créée officiellement que 12 ans plus tard, en 1964 donc. Par ailleurs, on va aussi parler de la FIAF, il s'agit de la Fédération Internationale des Archives du Film, dont incidemment Raymond Borde est le vice-président pendant 24 ans, de 1966 à 1990. Cette participation a valu à Raymond Borde une brouille avec Henri Langlois, fondateur de la Cinémathèque parisienne. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour comprendre entièrement cet épisode, j'espère qu'il vous plaira. D'abord, merci de me recevoir, Franck Loiret, à la Cinémathèque de Toulouse. C'est très aimable à vous. Vous êtes directeur délégué de la Cinémathèque de Toulouse. Pour vous, c'est quoi le rôle d'une cinémathèque?
Alors, la Cinémathèque a deux missions essentielles. Une mission de conservation, ouais. C'est la première, et ensuite une mission de diffusion. Voilà. Raymond Borde avait ce mot, il disait, voilà, si vous ne faites que de la conservation, vous êtes une archive de cinéma. Si vous faites que de la diffusion, vous êtes une salle de cinéma. Si vous faites les deux, bah, vous êtes une cinémathèque. Hein. C'est un peu la définition. Alors, ce n'est pas forcément simple à présenter, ce n'est pas forcément évident à comprendre, mais c'est vrai que pour nous, la base de la Cinémathèque, hein, vraiment les fondations, c'est la collection. Voilà. Donc, c'est l'archive. Donc, c'est tout ce patrimoine qui a été collecté et dont on a pris soin déjà depuis plus de 50 ans à la Cinémathèque. Donc, c'est aujourd'hui plus de 50 000 copies, 100 000 affiches. Hein, c'est la première collection d'affiches de cinéma en France. Documents papier, scénarios, etc. Appareils de cinéma, costumes, etc., etc. Et bien sûr, un très gros fonds d'ouvrages qui est disponible en bibliothèque. Ça, c'est très important pour nous. Donc, c'est vraiment les fondations. Et évidemment, ensuite, il faut partager ça avec le public. Il faut transmettre. Donc, il y a une mission, bien sûr, de transmission de ce patrimoine. Oui. Auprès de tous les publics et en particulier aujourd'hui auprès des publics jeunes, puisqu'on sait que voilà, c'est quand même là une grande question, comment le public jeune peut recevoir ses œuvres aujourd'hui. Donc on y travaille beaucoup, on pourra y revenir à travers dans différents cadres, avec différents outils. Voilà, donc une mission de transmission de ce patrimoine, et ça, donc on le réalise nous ici en centre-ville de Toulouse, avec donc deux salles de cinéma. Une salle d'exposition également, puisqu'il faut présenter aussi ce patrimoine iconographique qu'on conserve à Toulouse. Voilà, donc deux missions essentielles, donc beaucoup de métiers très différents à la Cinémathèque, sur deux sites, un site en centre-ville et puis un site un peu plus en banlieue de Toulouse.
Oui, parce que la conservation, ça a quand même des exigences.
Tout à fait, donc il y a un véritable centre de conservation et de recherche à Toulouse qui a ouvert en 2004. Et grâce à l'impulsion de Daniel Toscan du Plantier, qui était à l'époque président de la Cinémathèque de Toulouse. Mmh. Et ça, c'était une chance à l'époque d'avoir véritablement un lieu pour conserver au mieux ce fonds. Hein. Donc, encore une fois, ces films, qui sont essentiellement, bien évidemment, en pellicule. Mmh. Donc, il fallait des espaces adaptés, hygrométrie, etc., etc., ouais. Climatisation, etc., etc. Donc, c'est des espaces qui ont un coût aussi, hein, bien sûr. La conservation a un coût.
Bien sûr.
Mais voilà, ça nous a permis vraiment d'organiser la collection, évidemment, de manière très professionnelle, puisque cette collection, encore une fois, elle n'est pas arrivée comme ça à Toulouse. Hein, elle s'est construite sur les années et à un moment donné, c'est sûr que bon, les espaces de conservation n'étaient pas du tout adaptés à ce qu'était devenue la Cinémathèque de Toulouse, deuxième Cinémathèque nationale en France, donc avec une mission évidemment très, très importante et un patrimoine très important. Donc il y a une grande richesse à Toulouse dont il faut prendre soin. Et puis ensuite, des espaces là aussi de diffusion qui sont... qui sont aujourd'hui ce qu'on a à Toulouse depuis 1997, installé donc dans ce très beau bâtiment rue du Thor à Toulouse, avec donc une grande salle de 200 places, une deuxième un peu plus petite, qui permet d'accueillir donc toute l'année du public. Hein. La Cimatech, sur toutes ses activités, c'est environ, alors bien évidemment pas sur les deux dernières années avec la crise qu'on a connue, mais en 2019, on était à peu près à 90 000 spectateurs, visiteurs, sur toutes les activités de la Cimatech. Donc c'est important, c'est une activité très, très riche, c'est tous les jours, hein. on a des séances tous les jours, séances tout public, évidemment tous les accueils scolaires qu'on peut faire dans la journée, donc une activité très intense de programmation, d'accueil du public, et puis une activité très intense aussi, mais avec une, on va dire, des temporalités différentes à Balma, donc au centre de conservation, pour les équipes techniques qui cataloguent, inventorient, restaurent le patrimoine dont je parlais.
Tout a commencé pourtant par un ciné-club, puisque l'histoire de la Cinémathèque de Toulouse, c'est Raymond Borde en fait, hein, puis c'est son ciné-club au début. Est-ce que vous croyez aujourd'hui, même si je sais que ce n'est pas votre travail, dans cette forme de partage du patrimoine culturel cinématographique qu'est le ciné-club ?
Toulouse est une ville très cinéphile, hein, c'est une des villes les plus cinéphiles en France. Mmh. Et finalement, les ciné-clubs à Toulouse ont joué, je dis bien les ciné-clubs parce qu'il y en a eu plusieurs, ont joué un très grand rôle évidemment de formation du public. Et toute cette génération, bien sûr, a été très marquée par ces ciné-clubs. Et c'est clair qu'il n'y aurait pas eu de Cinémathèque à Toulouse s'il n'y avait pas eu ces moments de rencontre, d'échange autour du cinéma, évidemment, et de gens passionnés par ce qu'était le cinéma. Pas seulement les films, hein, parce qu'ils étaient aussi passionnés par tout ce qu'il y avait autour des films.
Si vous avez une si grande collection d'affiches.
Voilà, exactement. Voilà. Donc, ils rassemblaient tout ce qu'ils pouvaient trouver sur le cinéma, hein. De la pellicule et de la boîte complètement rouillée à l'affiche introuvable, etc. etc. Mmh. Et les affiches de Ciné-Club aussi, qui sont magnifiques parce que c'est des affiches uniques, bricolées. Ouais. Et on a une très belle collection d'affiches de Ciné-Club à Toulouse. Ouais. Voilà, donc c'est sûr que les Ciné-Clubs ont joué un grand rôle. Toutes ces générations des fondateurs, on va dire, vient de là. Ouais. Et je pense qu'on a gardé cet esprit-là. Aujourd'hui, on continue bien évidemment à avoir des invités et des moments et à créer vraiment des moments d'échange autour du cinéma. Pas plus tard encore qu'il y a deux jours avec Mathieu Macheret, par exemple, hein, où on a parlé de Rossellini et du cinéma de Rossellini. Donc je pense que voilà, c'est cette question, encore une fois, de transmission dont je parlais, hein, d'éducation à l'image aussi, parce qu'on travaille ça beaucoup, bien sûr, avec tous les publics jeunes. C'est quand même une des missions premières. Donc, on n'a pas perdu cet esprit-là.
Non, bien sûr. Quand on fait un peu de recherche sur la Cinémathèque, donc ce que j'ai fait, en tout cas j'espère, avant de venir vous voir, on se rend compte assez rapidement qu'elle est presque indissociable en fait, de la figure de Raymond Borde, conservateur, critique, théoricien, explorateur du cinéma, à bien des égards. Quel est l'héritage que Raymond Borde laisse à la Cinémathèque de Toulouse et comment le gérez-vous cet héritage ? Comment vous pensez qu'il se répercute aujourd'hui en 2021 ?
Alors, Raymond Borde est évidemment une figure majeure, hein, de l'histoire de la Cinémathèque. Hein. Ouais. Après, il n'était pas seul. Voilà, ouais. C'est important de le rappeler. Mm-hmm. Hein. Il y a quand même beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui, hein, à faire en sorte que la Cinémathèque devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a eu beaucoup aussi de personnes très importantes dans les années qui ont suivi, hein, on va dire. Hein,
oui, puisque la Cinémathèque se déplace beaucoup quand on regarde un petit peu son évolution. Vous n'êtes pas arrivé rue du Thor en 1964, quoi,
non,
à sa création.
Exactement. Donc, il y a eu toute une période où, évidemment, c'était encore très amateur. C'était encore, et ça c'est important, hein, ce feu-là, on va dire, a été toujours entretenu, mais dans des formes différentes. Ensuite, là, il y a eu une professionnalisation de la Cinémathèque à partir des années 80, avec les premières subventions qui sont arrivées, etc. Ouais. Mais tout ça a pris du temps, hein, les premiers salariés, etc., etc. Donc petit à petit, les bénévoles, on va dire, qui s'occupaient des collections, ont lâché un peu les choses, même si la Cinémathèque est toujours une association, hein, aujourd'hui. Comme la Cinémathèque française d'ailleurs, on a tout à fait le même statut
loi
juridique,
1901, ouais.
Exactement. Et donc, l'équipe s'est vraiment constituée comme ça. Donc, c'est vrai que la Cinémathèque n'a plus rien à voir avec ce qu'a connu Raymond Borde. Et je ne sais pas très bien ce que penserait Raymond Borde de la Cinémathèque aujourd'hui. pour parler vrai, je pense que Raymond Borde, on le sait, était
très forte personnalité.
C'est pas un homme simple. C'était un homme, je pense, effectivement passionnant que je n'ai malheureusement pas rencontré moi. Donc, je peux pas en parler plus que ça. Après, je pense que c'était quelqu'un qui était évidemment très intéressé et fondamentalement intéressé par la conservation du patrimoine. Ouais. Je pense que sur la question de la diffusion, et sur les formes de diffusion, je pense que là, on pourrait discuter. C'est pour ça que je dis que ce qu'on fait aujourd'hui, le travail qu'on fait aujourd'hui en termes de programmation et diffusion, voilà, en tout cas, c'est le nôtre, c'est celui qu'on défend, mais avec l'équipe de la CIMATEC d'aujourd'hui, avec ce qu'on connaît, le contexte actuel, bon, on pourra reparler de tout ce qui est le cinéma et l'image aujourd'hui. Ouais. C'est pas la même chose qu'en 1960 ou 70. Donc je pense que Raymond Porte serait très satisfait de la manière dont on continue à faire vivre la collection, ça c'est clair, et comment elle s'est enrichie aussi depuis des années, parce qu'on continue à recevoir énormément de dépôts de films et de documents, affiches et autres. Donc, c'est important.
J'en profite parce que vous touchez le thème et c'est vraiment ce qui m'intéressait. Plus concrètement, quand je parlais de Raymond Borde, peut-être, je voudrais savoir quel rôle a joué et joue encore aujourd'hui. Alors, c'est historique, hein, évidemment, puisque c'est là aujourd'hui, on est en 2021, donc j'ai bien conscience que les enjeux ne sont pas les mêmes. L'adhésion de la Cinémathèque de Toulouse à la FIAF. C'est quelque chose qui est important, on le voit, il y a une sécession, en tout cas, entre les relations entre Henri Langlois et Raymond Borde. Bon, au-delà du sensationnalisme et tout ça, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse. Mais moi, la sensation que j'ai, avec mes yeux de 2021, c'est que cette adhésion, c'était aussi une façon de court-circuiter un système français qui était très centralisé. C'est-à-dire que vous aviez Paris, comme aujourd'hui on a Paris, qui a une faculté, une facilité d'accès à un certain nombre de choses, de par son nom, de par le fait que c'est la capitale française. Et puis, il y a nous, après. Nous, les provinciaux, quoi. Quel regard vous jetez là-dessus, vous ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette adhésion à la FIAF ? Est-ce que c'est le début de quelque chose ? Ou alors est-ce que pour vous, pas du tout ? C'est juste un fait et aujourd'hui...
La Cinémathèque a été créée officiellement en 1964, même si l'aventure avait bien sûr commencé 10 ans avant au moins. Hein, ouais. Donc il partait pas de zéro, mais officiellement, l'association date de 64. Et dès 65... la Cinémathèque adhère à la FIAF. Donc c'est clair que ça propulse, on va dire, Toulouse à un niveau international incroyable.
Qu'elle n'aurait peut-être pas atteinte.
Et évidemment, donc
par le chemin français traditionnel.
Pour répondre à votre question, c'est évident que je le vois même encore aujourd'hui. Hein, moi, on a des congrès de la FIAF tous les ans, quand j'y suis et quand je représente la Cinémathèque, c'est clair que la Cinémathèque jouit d'une certaine notoriété, hein, encore aujourd'hui. Hein, ouais. C'est incroyable. Hein. Alors, on continue à faire le travail, mais on sent bien qu'il y a eu à un moment donné cette adhésion à la FIAF. Ces années-là, hein, donc ces années 60, 70, ont vraiment marqué les choses. Il se trouve, mais je ne vais pas rentrer dans cette histoire-là, mais il se trouve qu'au moment où Toulouse arrive, Paris n'adhère plus à la FIAF, et c'est vrai que du coup, on se retrouve même au comité directeur. C'est-à-dire que Raymond Borde se retrouve au comité directeur de la FIAF. Ouais. Donc, évidemment, il crée des relations avec les plus grandes archives mondiales, notamment le Gosfilm au Fond, l'archive nationale russe. Et c'est vrai que ça va nous entraîner dans une histoire incroyable d'échanges de films.
Et vous donner accès peut-être à... Voilà, c'est ça.
Voilà, donc le Gosfilm au Fond nous ouvre ses portes, etc. Et il se trouve qu'il y aura donc pendant très longtemps, c'est ce qui a marqué aussi l'histoire de la Cinémathèque, énormément donc d'échanges et donc de films russes et soviétiques qui vont rentrer dans les collections de la Cinémathèque. Ouais. Voilà, et ce qui fait que pendant très longtemps, la Cinémathèque a été vraiment la porte d'entrée du cinéma russe et soviétique en France. Ouais. Tous ceux qui voulaient montrer des films russes et soviétiques dans les années 70, 80 passaient par Toulouse. Ouais. Voilà, parce qu'ils savaient qu'on avait ces films. Alors cette histoire aujourd'hui c'est un peu terminée. Hein. On n'a plus tout à fait les mêmes rapports, même si on a d'excellents rapports avec le Gosfilm au Fond, mais c'est plus tout à fait la même chose. Mais c'est vrai que ça a beaucoup marqué. Donc les années FIAF ont marqué la Cinémathèque énormément, beaucoup d'échanges internationaux, ce qu'on continue aujourd'hui à faire, parce que c'est pas fini. Hein. Il y a ce réseau international qui est très actif, qui est très très vivant. Hein. Ça rassemble 200 archives dans le monde. On a ces congrès annuels dont je parlais. Donc c'est vrai qu'on continue beaucoup à échanger. Aujourd'hui, c'est très structuré d'ailleurs. Hein. Donc dès qu'on lance par exemple un projet de restauration, grâce à la FIAF, on a immédiatement une information sur qui conserve quoi, quels sont les éléments, etc.
C'est un réseau,
fonctionne très très bien et c'est aussi un réseau d'entraide, c'est-à-dire que les archives qui sont moins bien dotées, qui ont des difficultés, à un moment donné les autres peuvent venir en aide, des stages qui sont organisés aussi pour que là aussi des équipes mieux qui ont un savoir-faire puissent en former d'autres. Enfin, voilà, il y a énormément de choses qui se déroulent grâce à la FIAF. Et nous, on est toujours, bien évidemment, très présents dans le réseau. Donc, c'est vrai que la Cinémathèque de Toulouse ne serait pas la même chose sans la FIAF, c'est clair.
Je disais qu'on vivait, enfin, quand je vous en parlais tout à l'heure sur la manière un peu de court-circuiter peut-être, et sur lequel on discutait ensemble, le fait que grâce à la FIAF, vous avez eu accès à des documents, peut-être si vous aviez suivi le parcours traditionnel français, à savoir un peu en déférence, j'aime pas trop ce mot-là, mais un peu en déférence à Paris, je veux dire, dans le respect de la capitale, etc., etc., vous n'aurez peut-être pas eu accès à ça. On vit aujourd'hui dans un pays qui finalement n'a pas tellement évolué au niveau de la centralisation, en tout cas, je trouve. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez, vous, aujourd'hui, en 2021?
Oui, bien sûr. Ouais. Ça reste toujours un problème, je pense. C'est-à-dire qu'en dehors de la capitale, malheureusement, bah, y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Ouais. Et on a beau se battre, on a beau faire des choses formidables, si ça ne passe pas par Paris, ça n'existe pas. Voilà. Il nous est arrivé, même en programmation, de proposer des choses avant d'autres. Par exemple, Satoshi Kon, par exemple, hein, il se trouve qu'il y a eu récemment toute une actualité sur Satoshi Kon. Il se trouve que nous, on avait fait ça il y a 2 ans. Voilà, donc bien avant les autres, mais parce que c'était Toulouse, peut-être que bah, finalement, ça a peut-être moins d'importance, ou c'est pas... Voilà. Donc, on souffre de ça, hein, clairement. On souffre encore de ça, mais on le voit bien au niveau même de la presse. C'est-à-dire que nous, pour avoir à un moment donné un écho au niveau national, à travers la presse nationale, c'est très compliqué. C'est très compliqué, que ce soit pour une exposition, que ce soit pour une programmation, voilà. Il se trouve qu'on n'est malheureusement pas assez relayé, voilà. Donc, et ça, c'est vraiment... c'est très dur, hein, c'est très dur, parce qu'on a l'impression on sait qu'on fait un travail de qualité, qu'on propose des choses qui sont qui peuvent être très rares. Et si on regarde un petit peu le paysage national, on sait très bien que le public toulousain a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, parce qu'évidemment, on voit ici des choses qu'on ne peut pas voir ni à Nantes, ni à Bordeaux, ni dans beaucoup de villes.
C'est ça.
Hein, la Cinémathèque joue ce rôle-là, évidemment. Donc,
nous, on est tributaires concrètement des cinémas d'exploitation classiques.
Évidemment. Donc, on a une chance ici incroyable. On peut proposer, effectivement, en termes de programmation ou d'exposition, des choses assez, assez exceptionnelles. Mais malheureusement, parce que c'est ici, 800 km de Paris, on a du mal à faire en sorte que ça existe aussi et que c'est un écho au niveau national. Ouais. Et on sait qu'en même temps, c'est important pour la question des financements. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ça, eh bien vous aurez encore plus de difficultés à avoir des financements publics ou privés. Parce que, évidemment, le mécénat, les partis privés, ils viennent s'il y a de la presse, s'il y a des... Voilà, évidemment. Évidemment. Donc tout ça, c'est lié et c'est pas simple. Hein, c'est pas simple. Et parfois, on sent que, pour répondre aussi à la question, qu'effectivement, cet éloignement de Paris nous dessert, clairement.
Ouais. La Cinémathèque de Toulouse, du coup, je pense, pour répondre à ça aussi, d'une certaine manière, est très engagée régionalement. Elle a participé et continue de participer à des événements divers et variés, donc festival Confrontation à Perpignan, rencontre cinématographique à Valence, le festival du film méditerranéen à Montpellier, le festival international du film à La Rochelle, bon, je ne vais pas tous les faire, hein, voilà. Et puis après, dans un cadre international, vous avez Ciné Latino et Ciné España qui sont deux gros rendez-vous, en tout cas ce que moi j'ai cru comprendre comme étant deux gros rendez-vous pour la Cinémathèque de Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet engagement et sur sa signification pour vous, pour la Cinémathèque de Toulouse, en tant qu'entité culturelle ?
Une institution comme la Cinémathèque doit effectivement rayonner le plus possible. D'abord parce qu'on a des financements, alors nous à la Cinémathèque, des financements nationaux, hein, avec le CNC, le Centre National du Cinéma, mais aussi des financements de collectivités donc, locales. Hein. On a les 3 collectivités locales, la région, le département et la ville de Toulouse. Donc on doit rayonner. C'est important, et pour nous c'est important de programmer des choses, de présenter des choses hors les murs, comme on dit, hein. C'est-à-dire que tout ne se passe pas à la Cinémathèque, on a une actualité continue en dehors de la Cinémathèque. Alors vous avez cité certains lieux, certains festivals, il y en a beaucoup d'autres, hein, et c'est vrai qu'on a aussi des films, c'est ça, il faut le rappeler aussi, hein. On a une activité aussi de sortie de films, des collections, qui partent en France, mais aussi à l'étranger, dans des festivals, dans des programmations qui sont présentées à droite et à gauche. Donc, on répond aussi à ça, bien sûr, hein, sur des programmations extérieures et sur les collections aussi, hein, des costumes ou des affiches qui peuvent partir dans des expositions. C'est bien sûr aussi très, très important de le souligner. Donc, la Cinémathèque rayonne de différentes manières. Pour moi, c'est très important, évidemment, qu'on sorte de Toulouse et qu'on sorte même du 69 rue du Thor. C'est-à-dire que la Cinémathèque, ce n'est pas que les salles de cinéma à Toulouse, c'est beaucoup plus que ça. Donc, on fait beaucoup d'interventions, beaucoup de présentations de films, de séances en dehors. Et puis, voilà, on a des festivals qui sont partenaires, dont on est partenaire depuis très longtemps. Et moi, j'aime bien cette fidélité-là aussi, hein, à ces événements qui ont marqué le territoire, qui ont marqué l'histoire du cinéma en région. Et on fait attention à ça, à garder aussi ces liens-là qui peuvent être parfois très, très anciens. Et puis aussi, développer de nouvelles collaborations sans arrêt, de nouveaux partenaires, de nouveaux partenariats qui peuvent être parfois assez étonnants, mais... Et l'ouverture aussi au monde, c'est-à-dire que la Cinémathèque a rayonné récemment en Israël, en Chine avec une exposition et la présentation d'un ciné-concert, Les Misérables d'Henri Fescourt, 1925, magnifique. Mmh. Donc et on sera prochainement présent aussi, je l'espère, en Arabie Saoudite et dans d'autres pays. Donc la Cinémathèque de Toulouse, et donc Toulouse, la ville de Toulouse aussi est présente grâce à ça, ouais. dans beaucoup d'événements. Et ça, moi, j'aime bien le rappeler parce que souvent, on revient sans arrêt à l'actualité du 69 rue du Thor, mais la Cinémathèque, c'est pas que ça.
Ouais, évidemment. Ouais. Je voulais vous poser une question sur votre parcours et sur votre rôle au sein de la Cinémathèque. Et donc, forcément, je dois vous parler de votre cinéphilie. Comment est-elle née, cette cinéphilie ? Je sais que vous venez du théâtre et que vous avez travaillé dans le théâtre. Tout ça, j'ai fait un petit peu mes recherches. Mais comme là, on est à la Cinémathèque, je voulais savoir d'abord, est-ce que vous aviez une cinéphilie avant ? Est-ce que juste la vie vous a amené à la Cinémathèque et ça vous convient parfaitement ? Ou alors non, est-ce que vraiment il y avait quelque chose qui vous prédestinait, si tant est que...
Oui, ça a toujours fait partie de moi, c'est-à-dire que cette cinéphilie, elle est née... Alors moi, je suis né à Nantes, donc c'est vrai que on était plutôt aussi très, très chanceux d'avoir le cinématographe, par exemple, une salle comme le cinématographe, et puis d'autres salles, après aussi des salles commerciales que j'ai beaucoup fréquentées. Donc il y a eu toujours, évidemment, cet intérêt et cet amour du cinéma et du théâtre. Pour moi, les deux, en fin de compte, étaient toujours très liés, puisqu'au départ, c'était fondamentalement le jeu de l'acteur qui m'intéressait, donc que ce soit au théâtre ou au cinéma, c'était pour moi la même chose. Voilà, donc la vie a fait après qu'à un moment donné, le théâtre a pris beaucoup de place dans ma vie à un moment donné, et puis après il se trouve que le cinéma est arrivé. Donc la cinéphilie, oui, mais ce que je maîtrisais moins en fin de compte à l'époque, c'était effectivement toute cette question de la conservation, ouais. Du patrimoine. On oublie complètement cet aspect-là, des choses, comment les œuvres sont conservées, comment elles nous sont transmises, et on se rend bien compte, enfin moi aujourd'hui je me rends compte de l'importance de cette question, surtout,
c'est ma dernière question justement,
surtout aujourd'hui où on produit des films en numérique. Comment on va nous transmettre les œuvres qui sont produites aujourd'hui à nos enfants, petits-enfants, etc. Est-ce que ça sera possible ? Est-ce qu'ils pourront toujours voir ces films ? J'en suis pas sûr. Ouais. Voilà. Donc, en tout cas, nous, on prend soin de ce patrimoine qu'on conserve essentiellement en pellicule. Et là, on sait qu'on a une garantie de pouvoir le transmettre quand même sur le long terme. Ouais. Mais pour tout ce qui est du cinéma d'aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair. Hein, ouais. Beaucoup plus... Voilà. Et on sent qu'il y a des trous dans la raquette. Donc, moi, cette cinéphilie, effectivement, elle continue à s'enrichir, évidemment, tout le temps. Mais c'est vrai que cette question du patrimoine, de la conservation du patrimoine cinématographique, c'est des choses que je... c'est un sujet que je connaissais très, très peu. Et j'ai la chance aujourd'hui de m'intéresser à ces questions et de pouvoir aussi essayer avec d'autres d'apporter des réponses justement à ces questions très importantes. Comment est-ce qu'on va faire pour conserver aujourd'hui les œuvres qui sont produites?
Alors juste une dernière question et ensuite je vous laisserai tranquille. on a parlé un petit peu de tout ça, de la conservation, on a parlé du rôle de la Cinémathèque, on a parlé de tout ça. Il y a quelque chose qui est quand même très présent, je trouve, actuellement. Enfin, en tout cas, moi, j'ai l'impression d'être né là-dedans. Je suis né en 84. J'ai l'impression d'avoir... J'ai souvent été au cinéma, j'ai vu beaucoup de films. Le cinéma, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Un petit discours, une petite musique qui s'est bien installée, là, depuis quand même pas mal de temps, en vrai, sur la crise du cinéma. Donc on constate que les entrées baissent, que voilà, c'est quelque chose qui a toujours existé, hein. Je veux dire, dans les années 70 ça existait déjà, il y a eu la nouvelle vague, il y a eu plein de choses qui ont changé ça, qui ont fait que les gens se sont mis à revenir aux salles de cinéma. Selon vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui constitue le gros de la crise ? Et concrètement, puisque je veux rentrer dans le dur du sujet, est-ce que vous pensez que le prix des places est un problème aujourd'hui en France et dans le monde ? Je vous demande ça parce que c'est quelque chose que je n'entends jamais dans les interviews. Et quand je l'entends, généralement, c'est réfuté par des professionnels. Moi, personnellement, ça me met en colère parce que je sais ce que ça coûte une place de cinéma et je sais ce que je gagne moi et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ma situation, voire bien pire que moi. Et pour moi, d'entendre que c'est pas un problème, c'est problématique. Mais ça, c'est mon avis à moi. Moi, ce que je voudrais, ce qui m'intéresse, c'est votre avis à vous.
Alors ça, c'est une question... très, très large, parce que vous me parlez de crise, il y a plein de... On traverse là vraiment des moments très, très compliqués pour le cinéma, avec effectivement peut-être un changement qui a été accéléré aussi par la crise sanitaire qu'on a connue, évidemment, avec l'arrivée des plateformes et le développement des plateformes à toute vitesse. Et ça change beaucoup de choses dans la manière dont les gens appréhendent les films, appréhendent l'image, et puis surtout la question du financement du cinéma, puisque s'il y a moins de fréquentation en salle, il y aura moins de remontées de billets au CNC. Et donc là, c'est toute la chaîne qui est impactée. C'est toute la chaîne. Donc c'est vraiment tout le système français qui peut être à un moment donné, enfin qui est bousculé, ça on le voit bien. Ça tremble bien. Comment on va résister? D'autres pays, évidemment, résistent beaucoup moins et donc ça s'effondre très vite. On a un système de salles aujourd'hui en France qui est unique au monde, un système de financement qui est unique au monde, mais d'autres pays, évidemment, sont beaucoup plus fragiles à ce niveau-là. Et donc là, c'est la catastrophe. Je veux dire, les salles ferment et puis on n'y reviendra pas. Enfin, c'est fini.
Oui, il n'y a pas de retour en arrière.
Voilà, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, on voit bien que voilà, l'arrivée de ces plateformes, évidemment, bouscule tout ça. Je pense que, évidemment, les gens ont pris de mauvaises habitudes parce que, voilà, ils considèrent qu'ils ont accès à tout depuis leur canapé. Donc, ça, c'est un souci. Et puis, comme vous dites, effectivement, ils se disent, oui, finalement, je peux voir des films chez moi à un coût beaucoup moins. Donc, est-ce que c'est la peine que je retourne en salle? Enfin, voilà. Donc, c'est à nous aussi de montrer que la salle, que ces films ont été faits pour le grand écran déjà. C'est important. Et ils continuent à être faits pour le grand écran. Si on parle du dernier Jane Campion que j'ai eu la chance de voir, Power of the Dog, c'est un film qui est fait pour le grand écran, financé par Netflix. Donc on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les gens vont voir ce film que sur petit écran?
Et ça, donc, le problème, il est là.
Voilà, donc on ne comprend plus, il y a un contresens là. Donc, parce que les cinéastes restent des cinéastes, donc ils continuent à travailler eux pour le cinéma et pour le grand écran, sauf que les formes ensuite de restitution, on va dire, de monstration ne sont plus les mêmes. Donc nous, on continue bien sûr à défendre la salle, le grand écran, parce que pour nous, c'est l'essence même du cinéma et du spectacle cinématographique. Voilà, donc ça, on continuera toujours à se battre pour ça. Après, on est d'accord, il y a des formes complémentaires pour voir des films, évidemment. Moi, je veux dire que les gens regardent un film par moment sur un ordinateur. Bon, c'est pas mon truc, mais bon, ça me choque pas. C'est comme ça, aujourd'hui, ça fait partie du jeu. C'est complémentaire, mais il faut que ça soit complémentaire avec la salle. Il faut que la salle ait un attrait. Donc, c'est à nous, c'est ça que je disais, c'est à nous aujourd'hui d'inventer peut-être aussi des nouvelles formes en salle, de voir des films, de continuer à faire spectacle. Et donc, ça, c'est une réflexion aussi qu'on a à la Cinémathèque. Moi, je pense que ces moments d'échange autour des films, ça restera toujours important. Oui, et les gens resteront
certain.
Toujours.
Ça, c'est certain.
Voilà. Donc, on peut pas se dire qu'on va juste voir des films dans notre salon. Enfin, je veux dire, regarder des films dans notre salon, c'est pas possible. Donc, continuer aussi à créer ces lieux agréables, chaleureux, conviviaux, où les gens auront envie de venir, auront envie de voir des choses, auront envie d'en discuter après. Enfin, moi, je me bats beaucoup pour ça, parce que je pense que c'est vraiment... si on n'a plus ça, qu'est-ce qui nous reste? Enfin, c'est d'une tristesse incroyable. Donc, encore une fois, je veux pas être méchant avec les gens qui regardent des séries ou des films sur les plateformes, mais voilà, on peut pas être réduit à ça. Donc, après... Sur la question du prix, moi je suis d'accord, là, effectivement je pense qu'il y a une réflexion à mener, en tout cas nous on l'amène à la Cinémathèque, alors on va me dire forcément vous êtes aidé, vous êtes subventionné, oui, donc c'est sûr. Plus facile. On voit bien qu'on traverse nous aussi des périodes très compliquées au niveau des financements, c'est pas simple du tout, donc effectivement la billetterie on la regarde de très très près, on pourrait avoir tendance nous aussi à augmenter légèrement les prix, bon on est plutôt aujourd'hui dans un mouvement inverse en disant voilà, notamment pour les publics jeunes, publics étudiants, qu'est-ce qu'on fait pour proposer vraiment des tarifs très attractifs, et on voit que ça fonctionne, et on voit que les gens en ce moment sont là sur la rétrospective Rossellini par exemple, pour moi c'est magnifique de voir qu'on atteint un niveau de fréquentation formidable sur Rossellini,
donc on voit que c'est pas franchement un cinéaste facile,
et on voit que c'est pas perdu, donc il faut pas qu'on nous renferme toujours dans cette histoire de public cinéphile vieillissant, c'est pas du tout le cas, c'est pas la réalité.
Moi ça j'y crois,
c'est pas la réalité, voilà, donc et ces jeunes ils vont aussi voir la dernière série sur leur smartphone ou sur...
Oui, c'est la complémentarité.
La complémentarité. Mais ils viennent aussi, si les conditions leur permettent, ils viennent sur du Rossellini. Oui. Ils sont curieux et ils viennent découvrir ces films sur grand écran. Et pour moi, c'est ça qu'il y a à faire. Pour eux, ça devient... Effectivement, ça reste une chose incroyable. Voilà.
Il y a un constat que j'ai fait dernièrement. Moi, je vais voir beaucoup de vieux films quand ils sont programmés, notamment, donc, je vais le citer, L'Utopia à Bordeaux, qui est quand même un endroit assez reconnu et intéressant pour qui veut redécouvrir des vieux films sur grand écran, comme vous l'avez dit. Et le constat que je fais, c'est que quand je vais voir des rétrospectives ou des vieux films ou des rediffusions...
Il n'y a pas de vieux films, attention.
Oui.
Il n'y a pas de vieux lits, il n'y a pas de vieux films.
Vous me l'aviez dit au téléphone, c'est vrai.
Alors, on les appelle les films classiques ou les films de patrimoine, voilà. Comme on veut, mais il n'y a pas de vieux films. Au contraire, on est souvent surpris de la jeunesse,
oui, de la modernité.
Et de la modernité d'un film des années 30 par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. Donc,
mais quand je vais voir ces films-là, je constate que la salle est souvent pleine ou quasi pleine, ce qui n'est pas le cas quand je vais voir, par exemple, le dernier James Bond. Parle de James Bond, quand même.
Mais tout à fait. Je pense qu'il faut toutes ces idées un peu préconçues comme ça sur le patrimoine. Bon, ça a beaucoup changé depuis 20 ans, le patrimoine, parce qu'au contraire, le patrimoine a bénéficié d'une espèce de vague de ressorties et de restauration formidable, et tant mieux. Donc ça a été une crise de jouvence pour le cinéma de patrimoine, et on a bénéficié de ça, bien évidemment. Je pense que l'augmentation de la fréquentation ces dernières années, elle est aussi là-dessus. On surfe comme ça sur cette vague là mais voilà, je pense qu'il faut vraiment repenser ces lieux, la question des salles, la question de la salle. Qu'est-ce que c'est une salle de cinéma aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est le lieu de cinéma? Je pense qu'il y a encore plein de choses à inventer, donc il faut y travailler. Mais on voit que ça fonctionne. Donc il y a la question des tarifs, ça c'est sûr. Je pense qu'il y a quelques années, il y a des grands réseaux qui proposaient, notamment au public étudiant, des tarifs vraiment très, très peu chers, et ça fonctionnait très très bien.
Ouais. Donc, j'ai bénéficié moi-même d'une carte illimitée.
Voilà, donc comment, évidemment, il faut penser ça évidemment de manière beaucoup plus large, mais je pense que moi, comme vous dites, je l'entends aussi autour de moi, c'est en disant on va dans une salle commerciale, on ne va pas citer les noms, mais voilà, et on se retrouve à payer très cher pour un film qui finalement, au final, qu'on aurait pu voir peut-être dans quelques mois chez nous, et puis ça aurait été très bien.
Il y a aussi l'aspect rencontre dont vous parliez, qui est très intéressant.
Non, mais ça, c'est...
Pour vous donner une idée, donc, j'ai eu la chance d'assister au Festival international du film indépendant de Bordeaux. Le film de clôture, c'est Les Olympiades de Jacques Audiard, hors compétition.
Ouais.
Ce film-là, j'ai payé 10,50€ pour aller le voir en soirée de clôture, c'est-à-dire le prix d'un billet que je paye pour aller voir un film dans le même cinéma que je ne citerai pas. À la fin du film, Jacques Audiard était là, ça fait toute la différence.
Bien sûr, bien sûr.
Et là, je paye 10,50€ les yeux fermés, je veux dire. C'est pas du tout un problème pour moi, puisque je sais qu'à la fin, je vais pouvoir parler, je vais pouvoir échanger, discuter. Écoutez ce que Jacques Audiard a à dire à propos de
ça. Bien sûr, alors c'est ça, il faut aussi une plus-value, quelque chose qui... il faut que les gens viennent sur les soirées événements, des soirées avec des invités. Après, on ne peut pas faire ça tous les jours.
Non, c'est pas possible. C'est ça, ils ne peuvent pas être partout.
Ça permet aussi de capter un public. On le fait aussi, nous, pendant l'été, ici à la Cinémathèque, avec le cinéma en plein air.
Oui.
On a 40 séances de cinéma en plein air.
Vous avez merveilleuse cour.
Merveilleuse cour, ça crée l'événement. C'est aussi la manière pour beaucoup de spectateurs de découvrir le lieu, de découvrir la Cinémathèque, et finalement, au bout d'un moment, de se sentir aussi autorisé à pousser la porte. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, finalement,
c'est
la Cinémathèque,
pas ce lieu de vieux...
c'est aussi pour nous, c'est pas que pour les cinéphiles, c'est pas que pour une élite. Non, c'est pour nous aussi, et ça leur permet aussi, à un moment donné, de rejoindre sur d'autres programmations. Donc, il y a plein de moyens comme ça de capter le public, avec pour l'été d'ailleurs des tarifs qui sont les mêmes que l'année. C'est-à-dire, nous, c'est pas moins cher ou plus cher, c'est les mêmes tarifs. On vient voir un film en plein air ou en salle, c'est la même chose. Donc, on a la chance aujourd'hui de proposer des prix encore qui sont, je pense, très acceptables. Il faudrait vraiment pas qu'on soit poussé à les augmenter. Au contraire, je disais que pour les publics jeunes en particulier, on est au contraire, nous, dans une réflexion où il faut proposer des billets moins chers. Alors, ils ont déjà accès, pour certains, à des cartes annuelles, 45€ pour l'année pour voir tous les films. Enfin, je pense que là, quand même, c'est acceptable. Oui. Voilà, ça, c'est on fait ça avec des universités ou des grandes écoles avec lesquelles on est en convention. Mais voilà, il faut, je pense, aller dans cette direction-là, bien sûr.
Merci, Franck Loiret, pour votre temps et puis pour votre gentillesse et vos réponses. J'encourage les auditeurs de Cinécœur qui sont à Toulouse ou dans la région toulousaine, puisque moi je suis à Bordeaux, j'ai mis 2 heures pour venir, donc c'est pas non plus la fin du monde, à venir découvrir la Cinémathèque de Toulouse. Et puis je vous souhaite bien du courage pour la suite, et puis à bientôt peut-être.
Merci beaucoup,
merci.
À bientôt.
Au revoir.
Et voilà, ce premier épisode de Cinexplore est terminé. J'espère qu'il vous a plu. Il a été enregistré dans les bureaux de la Cinémathèque de Toulouse le 29 octobre 2021. J'en profite pour remercier une fois de plus Franck Loiret pour sa disponibilité, et je vous encourage à aller découvrir la Cinémathèque de Toulouse qui est située au 69 rue du Thor. Cinexplore est un rendez-vous du podcast Cinécure, produit par Adrien Larouzet et moi-même, et distribué par l'équipe formidable de Vaisseau Hypersensas, que je remercie pour sa patience et sa bienveillance. Je vous encourage à mettre la meilleure note possible à ce podcast si la plateforme sur laquelle vous l'écoutez le permet, c'est important pour le référencement. N'hésitez pas non plus à parler de Cinécure à vos amis et à votre famille. Plus le podcast est écouté, plus c'est facile pour moi de le produire et de continuer. Vous pouvez rejoindre le Discord de Vaisseau Hypersensas, le lien est dans la description de cet épisode. Vous y trouverez un channel Cinécure où nous parlons des films abordés dans le podcast, mais pas seulement. Nous nous retrouvons par ailleurs le mercredi 6 avril pour un épisode de recommandation, comme tous les premiers mercredis du mois. Le 13 avril, c'est sur la chaîne YouTube de Cinécure, à laquelle vous pouvez d'ailleurs vous abonner aussi, que ça se passera. Puis le 20 avril, je continue avec mon acolyte l'exploration de la carrière d'Henri-Georges Clouzot. Nous parlerons cette fois-ci des espions. Et enfin, le 27, je publierai un nouvel épisode de Cinexplore. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao !